Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, on a eu envie, Sophie et moi, d'inviter Julien Méniel. Julien Méniel est le créateur de la chaîne YouTube Dans ton corps qui ne compte pas moins de 700 000 abonnés. Sur Dans ton corps, il fait ce que l'on appelle de la vulgarisation médicale. Armé de son œil rieur de vrai gentil toujours partant pour la déconne et de t-shirt aux références métal, il prend la main de ses 700 000 abonnés pour les aider à comprendre leur propre corps et celui des autres. Comment faire passer une crise d'angoisse ou pourquoi a-t-on la diarrhée quand on est stressé? Il informe, il décomplexe et il éduque en somme. Mais avant ça, Julien, il a eu au moins 8000 vies. Infirmier en hôpital, puis en libéral, journaliste, rédacteur en chef adjoint dans un quotidien gratuit et maintenant youtubeur, auteur, animateur et comédien. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, on se doute qu'il en aura plusieurs autres de vie après. Alors pour comprendre ce qu'il a fait passer d'infirmier à restart YouTube, on lui a demandé de nous parler de son déclic à lui. Une simple conversation qui a tout changé. Salut Julien.
Salut.
Comment ça va?
Bah ça va très bien, merci, et toi?
Ça va très bien, merci aussi.
Cool.
Écoute, on est ravis de t'avoir dans le déclic aujourd'hui. Comme je disais dans notre introduction, c'est qu'un déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier. Donc je te propose qu'on revienne un petit peu sur tout ce qui s'est passé.
Ouais, chaud.
En fait, on en parlait aussi dans l'intro, mais tu as eu pas mal de vies pro très différentes avant YouTube, avant ce pourquoi on te connaît, surtout le grand public. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, s'il te plaît?
De mes vies d'avant?
Tout à fait.
J'ai été infirmier pendant une dizaine d'années. Déjà, infirmier, c'était un peu un accident de parcours parce que c'était pas du tout une vocation, c'était pas du tout un truc auquel je me destinais. Je me suis inscrit au concours parce que ma sœur voulait être infirmière et que vraiment moi j'étais en rupture scolaire d'études à ce moment-là. Je passais mon temps à faire la fête. Je lui ai dit vas-y, prends-moi un dossier, je vais m'inscrire aussi. J'étais pris, je l'ai fait, c'était cool. Mais au bout de. Donc j'ai fait 7 ans à l'hosto en réanimation au SAMU. Génial.
Donc assez lourd en plus.
Ouais. Mais trop bien. Aucun regret. C'est des années que j'ai adorées. Au bout d'un moment, l'hôpital, ça me pesait un peu. Mais plus le rythme, en fait, bosser les week-ends, machin,
etc. Ceci dit, je comprends d'autant plus.
Justement. Voilà. J'ai bossé en libéral. Mais là, le rythme, ça ne me convenait pas forcément non plus.
Surtout que tu es passé du tout au tout, parce que tu es passé de la réa, slash urgence, au libéral, où là, tu allais chez les gens plutôt,
ouais.
Je suppose.
Et tout seul en plus, ouais. Tout seul dans ma bagnole, dans les embouteillages, machin et tout. Avec un gros abattage de beaucoup de patients à voir, etc. Donc, pas forcément hyper satisfaisant en termes de contact humain. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. J'ai bossé petite année et demie après chez Mondial Assistance en faisant du coaching santé par téléphone. Et pareil, je me suis dit, on va arrêter d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Et à la fin de mon CDD, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire ce que j'ai envie de faire, à savoir je ne sais pas quoi. Mais j'avais envie de raconter des trucs, j'avais envie de bosser sur Internet, j'avais envie de toucher un peu à tout, photos, vidéos, etc., textes, écrits. Et je me suis dit, journaliste, pourquoi pas. Donc j'ai repris des études et j'ai eu le concours d'entrée, j'ai eu le concours de sortie et j'ai atterri dans un quotidien gratuit qui m'a gardé à l'issue de mon stage, donc trop bien.
Et du coup, ça, on va en parler un petit peu plus tard parce que ça sera ton après-déclic, mais on va rester un petit peu sur ta carrière d'infirmier parce que ça a été quand même quelque chose de très important pour toi et même qui a été le vecteur de ta chaîne YouTube maintenant.
Ouais.
Est-ce que donc tu disais que tu avais envie de créer des choses, des vidéos, des articles, mais est-ce que tu le faisais ou c'était juste une envie que tu avais dans le coin de ta tête, même en étant infirmier, ou tu l'as concrétisé?
Alors, je le faisais déjà. Je l'ai toujours fait en vrai. Écrire déjà, c'est vraiment une passion depuis que je suis tout petit. Donc, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des textes, des rédactions, des fictions. J'ai commencé 1000 romans qui n'ont jamais été terminés. Donc ça, j'ai toujours fait. La vidéo, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était dingue de tech, comme mon frère.
Comme les jeunes disent.
Donc il a acheté un... Il a acheté très vite une des premières caméras qui était vendue, qui était un truc que tu reliais avec un fil qui pesait 750 kg à peu près, que tu reliais avec un câble à ton magnétoscope que tu te trimballais en bandoulière et t'appuyais sur REC et tu filmais en même temps. Et du coup, avec mon frère, on a très vite fait des... on a fait très vite des vidéos, des trucs à la con, ou des trucs marrants ou très peu marrants. Et après, quand Internet est arrivé, puisque à l'époque, il n'y avait pas Internet... j'ai ouvert des blogs où je postais pareil des textes, des Photoshop à la con, des petites vidéos pareil, plus ou moins drôles. Donc c'est un truc que j'ai toujours fait, mais j'envisageais pas forcément ça comme un métier parce que ça paraissait difficile de pouvoir bouffer avec ça. Et en fait, si, c'était possible.
Oui, surtout à cette époque-là où Internet commençait juste à...
Ça balbutiait. Juliette, ça balbutiait.
Voilà. Bah oui, mais écoute, maintenant, il y a un tas de métiers qui ont été créés maintenant grâce à Internet. Mais c'est vrai qu'au départ, personne n'imaginait que tous les blogs, etc., pouvaient être vecteurs de métiers et cristalliser tout ça en carrière, en fait. Je comprends tout à fait, mais ça a Merci. Quand même... ces blogs, ces créations, ça a quand même une incidence, en fait, sur tes choix pour après.
Après coup, ouais. Après coup, bah justement, quand j'ai vu que... Enfin... Non, quand je me suis réorienté, c'était pas encore l'âge d'or des blogs où tu pouvais gagner ta vie, mais en tout cas, tu voyais que sur Internet, oui, il y avait moyen de continuer à faire des trucs qui te plaisent et que ça pouvait potentiellement devenir un gagne-pain. Mais ouais, non, dans un premier temps, vraiment, enfin, j'ai pris le journalisme parce que vraiment, je voyais que ça comme option pour gagner des sous avec.
Et tu parles de cette envie de créer, mais est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire toute cette pédagogie, cette envie de transmettre et d'expliquer, est-ce que ça faisait partie de ta personnalité ou de tes créations que tu faisais au départ ?
Non, vraiment au départ, moi c'était du divertissement, de l'entertainment, comme on dit dans la langue de Britney Spears. Donc vraiment c'était des blagues, des trucs à la con, la pédagogie, en fait je l'avais déjà dans mon métier d'infirmier parce que c'est quand même une grosse partie du métier d'infirmier d'expliquer aux gens ce qu'ils ont, ce qu'on va leur faire, ce qu'il faut qu'ils fassent pour pas que ça recommence ou pour pas être malade machin et tout, mais non je me voyais pas forcément là-dedans, d'ailleurs... jusqu'à dernier moment avant de me lancer sur YouTube, j'envisageais plutôt de faire de l'humour, de la pédagogie c'est venu un peu après. Ouais.
Et du coup, je vais revenir sur cette vie d'infirmier parce que c'est quand même hyper intéressant et surtout, ça a été, comme je le disais, ça a été ce qui a cristallisé ton positionnement aujourd'hui. Oui, merci. Appelez le Samu. Qu'est-ce que tu aimais et n'aimais pas dans cette vie d'infirmier ? Qu'est-ce qui t'a fait que tu as eu envie de changer ?
À l'hôpital, comme je t'ai dit, il y avait déjà le côté... c'était chaud. Moi, je bossais 12 heures par jour. Je faisais 7h-19h pendant 2 mois et puis après 19h-7h. Donc, je bossais 12 heures. Je bossais jour et nuit en alternance, un week-end sur deux. Donc, socialement, c'était pas ouf. L'hôpital, après, les conditions de travail se sont, enfin, à mon goût, se sont dégradées. Il y avait de plus en plus de demandes de rentabilité qui ont abouti aujourd'hui à ce qu'on connaît.
C'est un gros sujet aujourd'hui.
Donc, je ne m'y retrouvais pas. J'avais envie de changer d'air, d'avoir un peu plus de proximité avec les gens, d'avoir le temps de faire mon boulot et tout. Donc, pire idée, infirmier à domicile, parce qu'il y a encore moins de temps, voilà. Mais sinon, le métier en lui-même, j'ai toujours adoré. Mais voilà, il y avait ces aspects-là, de cette sensation de ne pas avoir le temps de faire bien mon boulot qui me plaisait pas, surtout quand tu bosses avec des êtres humains.
Tout à fait, donc, surtout dans la santé en plus.
Ouais, donc voilà, il y avait ça. Et puis après, il y a eu quand même aussi le truc de me dire, finalement, je suis un peu tombé là-dedans par hasard, même si ça m'a vachement plu. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'ai envie, comme je disais tout à l'heure, de faire de raconter des trucs, d'être créatif, etc. Donc il y a eu, ça a été vraiment la collision de ces deux trucs qui ont fait que je me suis dit, ouais, il faut peut-être essayer de faire autre chose de ta vie, quoi.
Et on va bientôt parler de ton déclic. Donc, on rappelle qu'il y a été une conversation en fait qui a tout déclenché. Mais juste avant ça, est-ce que tu nous as parlé du fait que cette conversation a fait en sorte que tu as recommencé des études de journalisme pour te lancer sur ta seconde carrière. Mais est-ce qu'avant ça, quand ça a commencé à popper dans ton esprit, tu avais des blocages à l'idée de recommencer les études?
J'avais des blocages qui étaient hyper concrets et pragmatiques, quoi. J'avais sûrement un peu, franchement la trouille de me lancer un peu dans le vide alors que j'avais une espèce de voie royale jusqu'à la retraite. Enfin bon, la retraite, merci Macron, on n'est pas sûr. Mais j'avais cette espèce de voie royale.
Et subversif.
Moi je peux te dire que là, je vais dire.
Au vitriol. Hein.
Et du coup, ouais, mais j'étais dans une espèce de prison dorée que j'avais un peu les jetons de quitter. Et puis sinon, après, il y avait. Comment est-ce que tu te réorientes j'avais 30 et quelques balais, déjà des enfants et tout. Comment tu te réorientes concrètement comment tu gagnes ta vie si tu dois reprendre des études en même temps etc. Donc c'était les blocages, ils étaient à la fois psychologiques et très pratiques.
Et donc, on va pouvoir passer à ton déclic. Là, tu vas nous généralement, on l'annonce nous-mêmes à nos auditeurs, mais toi, je pense que ça peut être plus intéressant, vu ton déclic, que tu nous expliques en fait ce qu'il a été exactement.
Ouais. Déjà, moi, le déclic, ça m'évoque une BD de Manara sur laquelle je me suis énormément masturbé. J'avais envie de le dire depuis tout à l'heure. Voilà.
D'accord, très bien.
Donc, c'est fait. Vous pourrez couper, hein, si je ne sais pas, je connais pas trop votre public, je ne sais pas.
Oh non, non, on laisse tout.
Le déclic, c'était pendant une fête. On clopait sur le balcon, c'était une fête chez un ancien collègue infirmier. Je discutais avec une ancienne collègue infirmière et je lui disais un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, à savoir infirmier, je crois que j'arrive un peu au bout. En vrai, j'ai envie de faire autre chose, en vrai, j'ai envie d'être créatif, en vrai, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais bon, ouais, tu comprends, c'est pas facile. J'ai 30 ans, j'ai des enfants, les sous, machin. Et puis, est-ce que j'ai le droit de mettre en péril cette espèce d'équilibre que j'ai dans ma vie de famille? Est-ce que j'ai le droit de les embringuer dans cette histoire-là? Ils n'ont rien demandé, machin, etc.
Quel âge ils avaient, tes enfants, à cette époque-là?
Ma fille n'était pas née encore, en vrai, mais elle était je crois qu'elle était en gestation. Et du coup, mon fils avait 3 ans, un truc comme ça.
D'accord, oui, effectivement. Donc en plus, ça,
ouais.
Il y a ce côté petit enfant, ouais, famille, voilà. tout juste créé et tout.
Ouais, exactement. Donc je lui faisais mon discours elle me laisse parler très poliment. Mais je voyais bien qu'elle avait l'œil qui frisait et qu'elle hochait la tête de façon un peu goguenarde. À la fin, elle me dit, mais en fait, tu te rends compte que depuis tout à l'heure, t'essaies de te convaincre toi-même de pas y aller. Tu cherches juste des excuses pour pas y aller parce que peut-être t'as peur ou peut-être je sais pas. Et ça m'a séché.
Ouais. J'en doute pas, ouais, parce que ça a dû.
Ouais. Ouais, parce que j'étais hyper convaincu de mes arguments. J'avais sans doute déjà bien répété ça dans ma tête, machin, etc. Donc effectivement, je m'étais déjà moi-même bien convaincu. Et le fait que elle, alors pour le coup, pas du tout, et qu'elle me balance ça de but en blanc, genre. Tu te cherches des excuses, tes gamins, ils t'ont rien demandé.
Et puis surtout, en plus, elle devait voir tout le langage corporel qu'on laisse transparaître quand on essaie de se convaincre soi-même.
Ouais, sans doute, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, toujours est-il que ça m'a séché. Je pense que sur le coup, j'ai pas réagi.
Disons-le, t'es resté comme un rond de flanc. Hein.
Comme deux, même. mais directement, deux ronds de flanc. Mais ça a quand même fait son chemin et je me suis dit mais oui, enfin clairement elle a raison, quoi. Je me cherche des excuses pour pas y aller, j'ai bien conscience que je suis enfermé dans un truc qui me plaît pas, mais en même temps c'est la stabilité, c'est la sécurité, donc vraiment clairement j'ai les jetons et faut que j'arrête de me mentir, quoi. Et elle, c'est son argument phare, c'était tes gamins ils t'ont rien demandé, si t'es pas heureux tu pourras pas être, enfin tu seras pas épanoui dans ta vie, tu seras pas bien dans ta vie, tu pourras pas être bien pour eux. Donc si tu veux leur rendre service vraiment, fais ce que t'as envie de faire. Et si tu veux le faire, bah, tu trouveras les moyens de le faire intelligemment. Ou au moins, t'essaieras et t'arriveras à la conclusion que c'était pas possible. Mais voilà, t'empêche pas d'essayer. Et ça a vraiment fait son chemin très rapidement. Et je crois que 2 mois après, je me mettais très clairement en quête d'une possibilité pour me réorienter. Ouais.
Et justement, donc comment t'es venu l'idée du journalisme en fait ? Est-ce que ça a tout de suite été clair dans ton esprit ou ça t'as fait des petites, enfin pas des recherches, mais tu fais des mood boards ?
J'ai fait un truc qui s'appelle pas un bilan de compétences, mais ah oui. Un truc un peu plus large que ça. Le nom m'échappe là tout de suite. Parce qu'en fait, du coup, j'étais infirmier chez Mondial Assistance à ce moment-là. Donc j'ai dit, je renouvelle pas mon CDD, j'arrête là. Je me suis inscrit au chômage et ça me donnait droit à un bilan de compétences élargi, machin, etc. J'avais quand même en tête que potentiellement le journalisme c'était une option, mais déjà je voulais que ce soit validé par un organisme pour avoir un peu la légitimité d'aller m'inscrire au concours, etc. Et puis je voulais être sûr qu'il n'y avait rien d'autre. Et je crois que ça a duré 2-3 mois ce truc-là. Et au bout de. À la fin du bilan, la conseillère m'a dit de ce que vous me décrivez là, ce qui arrive en tête, c'est le journalisme. Donc je me suis dit banco. Banco.
Mais moi, c'est une question. Parce que j'ai évolué dans ces deux milieux. Pourquoi le journalisme et pas la communication qui sont parfois très. Les limites étaient parfois très, très ténues, en fait. Mais pourquoi plutôt le journalisme ? Est-ce que c'était plus une envie de partager des choses de façon plutôt pragmatique ? Ou c'était. Pourquoi exactement le journalisme, en fait ? Plutôt qu'un autre métier. Pourquoi pas. Je sais pas, te former à l'écriture, en fait, simplement, comme toi, comme tu disais que tu écrivais des romans, etc., ouais. Quand tu étais plus jeune.
Là, pour le coup, je crois que c'était vraiment un truc. Alors, pour la deuxième partie de ta question, à savoir être romancier, machin, etc., je me disais peut-être avec un peu de vanité que si j'avais envie de le faire, je pourrais le faire sur mon temps libre, etc. Et puis, il y avait aussi ce côté, je peux pas tout miser sur un truc aussi. Précaire et peu sûr qu'écrire des romans. Pourquoi pas la com ? En vrai, j'y ai jamais pensé.
C'était peut-être l'évidence, du coup.
Et la conseillère m'en a pas parlé, ouais. Non plus. Donc, parce que c'est vrai qu'à brûle pour point, comme ça, hein, à l'emporte-pièce, on peut se dire que ça a l'air plus créatif que journaliste, ou journaliste, c'est vraiment hyper, hyper factuel. Mais non, franchement.
Ça rapporte plus, en plus.
Et en plus, on gagne de l'argent. Plus, ouais. En plus, c'est vrai que c'est, ouais. Bien ça.
En revanche, c'est vrai que la communication, pour connaître, hein, de l'intérieur, c'est moins pragmatique. Tu vas produire pour. C'est plus positionné, parce que tu vas parler pour une marque, par exemple.
Ouais.
Tu vas parler pour une agence qui va parler pour des marques. Tu vas pas parler pour un public clair comme quand tu as travaillé dans ce quotidien, en fait.
Ouais. Ouais, ouais, non, mais en vrai, je même si j'y ai pas pensé sur le coup, je regrette pas, parce que je pense que le journalisme, en tout cas tel que je l'ai pratiqué, ça me convient mieux que la com, en vrai.
Et comment ça s'est cristallisé, tout ça ? Donc donc après ce bilan de compétences avec cette dame du Pôle emploi, tu as repris des études. Quelles études tu as fait ? Est-ce que ça a été dur de reprendre des études à 30 ans et quelques ?
Ça a été dur en pratique, pas pour moi. Pour moi, ça a été vraiment un super bouffée d'oxygène. Ça a été dur d'abord parce que j'ai fait un dossier Fongessif qui est vraiment spécifiquement alloué aux gens qui veulent se réorienter professionnellement, machin, etc. Donc, on m'avait dit, c'est génial, parce que vraiment là, vous arrivez en fin d'année, on n'a pas éclusé tout le budget, on est obligé de l'écluser parce que sinon l'année prochaine, on en aura moins et tout. Donc, votre dossier va passer tranquille, machin.
Et du coup, tu as repris en cours d'année, en fait. T'as pas attendu le mois de septembre d'après
Si je me souviens bien, la rentrée n'était pas en septembre. Mais c'est surtout que j'avais fait mon dossier en fin d'année, je sais plus quelle année, mais c'était vers décembre. Et les gens m'avaient dit ça va passer tranquille, machin, etc. Donc ils m'ont fait une simulation. J'avais un salaire pendant tout le temps de ma formation et ils payaient quasiment 100% de mes frais de scolarité, donc c'était hyper cool.
Ouais.
Sauf que mon dossier a été refusé 2 fois parce que pas de cohérence dans le plan. Parce que infirmier, secteur en souffrance, en manque de personnel, etc. Donc chômage égale zéro. Journaliste, domaine saturé, ouais, avec plein de gens précaires et plein de chômage. Donc ouais, ils m'ont dit, on va pas vous financer votre chômage de demain. Du coup, j'ai vu avec Pôle emploi, ils m'ont dit, bah, vous pouvez suivre une formation en continuant à toucher le chômage. Et bah, j'ai claqué toute ma prime de fin de CDD de mon boulot d'avant pour payer mes frais de scolarité. Donc bah, j'ai pu le faire... J'ai pu le faire quand même, mais il a fallu que je passe le concours pour l'école de journalisme, qui était l'école des métiers de l'information, qui n'était pas une école de formation initiale, mais qui était assez spécialisée dans les reconversions professionnelles. Mais malgré tout, eux aussi trouvaient que bah, les gens qui faisaient cette formation-là, historiquement, c'était plus des gens qui venaient de la com ou de secteurs un peu approchant le journalisme.
Avec un petit rapport, ouais, effectivement.
Moi, ils m'ont vu arriver. Voilà, bah, oui. Et ils ont dit bah, journalisme, vraiment, mais vous croyez, machin, etc. Donc j'ai passé. En plus, j'avais peu de culture journalistique. Donc parmi les épreuves d'admission, il y avait un truc sur le journalisme, l'histoire du journalisme, machin et tout, où j'ai chié dans la colle allègrement, hein, à de multiples reprises. Et ce qui m'a sauvé, c'est mon reportage. Il fallait qu'on aille faire un reportage. Donc du coup, moi, je suis parti. J'ai fait un truc qui leur a semblé suffisamment cool pour qu'ils acceptent de me recevoir à l'oral. Et à l'oral... bah, il a fallu les convaincre que ouais, que je me lançais pas dans le vide et que je pensais vraiment avoir les compétences pour faire ce truc là et au bout du compte j'ai fait une formation. On a été assez peu de ma promo à trouver du boulot en sortant, mais moi j'ai fait partie de ces gens là donc cool.
Et t'as abordé un point en fait que j'ai oublié d'aborder avec toi dont je voulais te parler, mais c'est toi le journalisme en fait. Est-ce que tu étais client, comme tu le disais, tu bouffais pas tant que ça, par exemple t'étais pas un pro de l'histoire du journalisme, donc en fait toi ça découlait plutôt d'une une envie viscérale de t'exprimer plus que d'un amour de cette
ouais,
de ce média.
Ouais ouais, vraiment, parce que alors j'étais abonné à Libé, je lisais 20 minutes tous les matins parce que gratuit, voilà. Donc je lisais quand même deux quotidiens tous les jours, j'étais informé, etc. Mais je peux pas dire que j'avais une vocation de journaliste, tu vois. En rentrant, t'as 90% des gens en rentrant en école de journalisme qui te disent « moi je veux être grand reporter,
t'avais
moi
pas cette envie d'énoncer. »
Non, moi ouais, je savais que je voulais bosser sur le web. Et je savais déjà, même si à l'époque c'était pas encore complètement un format installé, c'était vraiment les balbutiements, deux fois balbutiements. Je savais que je voulais faire de l'infotainment, donc je voulais faire des trucs à la fois marrants et informatifs, quoi. C'était pas par amour du journalisme, c'était juste que j'avais cette impression que ça allait me permettre de m'exprimer de la façon dont j'avais envie de m'exprimer.
Et donc tu as parlé de la façon dont ça a été reçu par les personnes qui t'ont vu en pleine reconversion professionnelle, mais du côté de tes proches, comment ça s'est passé cette réorientation ?
Ben, ça s'est très bien passé, j'ai eu vraiment le soutien de tout le monde, c'était même pas vraiment un soutien, c'est-à-dire que pour eux c'était complètement normal, j'avais envie de faire autre chose, j'avais... planifier mon petit truc, je tentais, donc pour tout le monde c'était naturel et tout le monde, personne a essayé de me dissuader, personne m'a dit attention tu prends des risques machin etc. Donc non, ça s'est hyper bien passé. Et puis après, accessoirement, j'avais quand même ce filet de sécurité de si je me plante, bah je retourne bosser à l'hosto, quoi. J'avais toujours un métier, voilà, bien je sais sûr. Pas même si j'avais envie de tout sauf de ça, mais voilà, je savais que j'étais pas à la rue, quoi.
Et cette formation, elle a pris combien de temps avant que tu puisses rentrer donc en stage puis en rédaction?
En fait, c'est une formation accélérée en un peu moins d'un an.
D'accord.
Qui se termine par donc un mois de stage. C'est accéléré parce que c'est intensif et parce que tu apprends vraiment en pratiquant. Tu as peu de cours très très très, enfin exclusivement théorique, et en général tu commences par essayer, genre on te dit bah vas-y tu sors, tu me ramènes une info, ou vas-y tu sors, tu fais un reportage, tu vas faire une interview machin, et après c'est en débriefant les travaux que tu montres qui te disent bah voilà, là c'est bien machin, mais en vrai là c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, etc. Donc c'est rapide mais c'est hyper formateur. Et moi, je me suis rendu compte en arrivant en tant que stagiaire, en tout cas, que un, le fait d'avoir un profil complètement atypique, c'était une vraie force, parce que En conférence de rédaction, je proposais jamais les mêmes angles que tous les autres qui sortaient des écoles de journalisme classique. Et deux, que bah, j'avais ce truc hyper, hyper pratico-pratique et qu'il ne me fallait pas deux jours pour écrire un papier. Quoi. Donc j'ai eu une chouette formation qui me préparait bien au job.
Encore une fois, tu n'as jamais eu envie d'abandonner parce que tu disais que ton dossier a été refusé plusieurs fois. T'avais toujours, c'était tellement viscéral que t'as continué même, parce que beaucoup en reconversion se seraient dit, bon bah c'est un signe, mon dossier a été refusé, j'abandonne. Mais ouais. Toi, pas une seule fois.
Alors d'abord, je suis pas du tout superstitieux, donc je crois pas aux signes.
D'accord.
Ensuite, je suis une tête de con puissance 1000, et je déteste perdre. Abandonner, c'était vraiment pas une option. Et je me disais, je suis allé trop loin pour reculer maintenant. Si vraiment, justement, enfin, tu vois, il y avait j'avais tellement essayé de me convaincre qu'il fallait pas que j'y aille, qu'une fois que j'y étais, je me suis dit, je vais au bout du truc. Mmh. Et si au bout du truc c'est un échec, au moins j'aurais tout essayé. Mais vraiment, j'ai pas une seconde j'ai pensé à laisser tomber en cours de route.
Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a commencé à devenir concret, quand tu as été embauché dans ce stage, puis après dans cette rédaction? Le stage qui est dans la même rédaction, pardon.
Ouais. Pour le stage, déjà, ça a été un peu chaotique, parce que c'était mon premier choix, parce que je savais que la rédaction web était une rédaction hyper jeune, que le red chef était quelqu'un qui avait des idées assez novatrices, mmh. etc. Donc qui collait vraiment très très bien avec ce que j'avais envie de faire moi comme type de format. Mais j'ai pas eu de réponse quand j'ai fait ma demande de stage. Donc je me suis rabattu sur un autre stage. Et au dernier moment, donc vraiment pendant l'été, juste avant, parce que le stage était en septembre. D'accord. Pendant l'été, j'ai reçu un mail de la rédactrice en chef, puisque le rédacteur en chef en question s'était fait virer venait de se faire virer. Et la rédac était en grève, et du coup, il cherchait des stagiaires pour écrire les articles à la place des journalistes en grève. Donc du coup, j'ai fait, ok, ouais, je suis dispo. J'ai planté l'autre rédaction dans laquelle je devais faire mon stage. Et je suis arrivé chez eux. Donc déjà, ça, c'était j'étais hyper content parce que je me suis dit, ils reviennent me chercher, donc vraiment, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir faire des trucs cool. Et en plus, c'était vraiment tellement la rédaction dans laquelle j'avais envie de travailler. Donc j'étais hyper, hyper content. Et à la fin de mon stage, en fait, j'ai appris le dernier jour de mon stage, pendant mon bilan de stage avec la rédactrice en chef, qu'il y avait moyen de rester 3 mois en CDD. Parce qu'ils cherchaient un journaliste éco et qu'ils n'avaient pas trouvé. Ils ont dit, toi, tu n'as pas un profil éco, mais si tu veux rester en attendant, c'est cool. Donc là, ce jour-là, j'étais fou de joie, quoi. Non, c'était même... C'était pire que ça. C'était avant la fin de mon stage, en fait. Je devais faire un mois chez eux et un mois dans une autre rédaction. Un autre gratuit, complètement concurrent. Et à la fin de mon mois de stage, le dernier jour, la red chef me propose un CDD de 3 mois, mais a commencé tout de suite. Du coup, j'étais obligé d'annuler mon autre stage aussi et de demander l'autorisation à l'école de signer un contrat avant la fin de mes études. Ouais. Mais bon, j'étais tout fou. Et après, pour le CDI, c'était pareil. Le profil éco, il n'y en avait plus besoin. On était deux avec une très très bonne pote à moi en concurrence pour être prolongé en CDI. Et en fait, il y a un journaliste qui est parti bosser ailleurs. Du coup, il y avait deux postes en CDI. On a été pris tous les deux. Et ce jour-là, je me la suis bien collé.
T'as quand même pas mal évolué après dans cette rédaction. T'es resté combien de temps et comment a évolué ta carrière?
Je suis resté 8 ans. J'ai commencé stagiaire, après rédacteur, information générale. Et puis chef de rubrique, chef de service, red chef adjoint du web, red chef adjoint du web et du journal papier.
Monsieur.
Et puis, pardon. et puis, j'ai monté. Je faisais déjà pas mal de vidéos.
Ouais.
Parce que quand je suis arrivé, petit détail à préciser, il y avait un enfant qui était là depuis quelques mois, qui s'appelait Cyprien, et qui faisait des petites vidéos dans cette rédaction. avec qui j'ai assez vite commencé à bosser sur un format d'abord hebdo et puis quotidien qui s'appelait le Rewind. Quand il est parti, j'ai continué à faire des vidéos dans mon coin, voilà, de temps en temps. Mais je me disais, la vidéo, ça montait vraiment en puissance. Les youtubeurs, ça n'existait pas encore vraiment, mais tu sentais qu'il se passait des trucs. Et du coup, j'ai monté un projet pour faire une vraie rédaction, enfin une vraie équipe vidéo chez ce quotidien gratuit. Et la direction a validé le truc et m'a donc fait basculer de rédacteur adjoint à rédacteur adjoint chargé de la vidéo. Et du coup, je suis resté là-bas, à ce poste-là, pendant 2 ans. Donc voilà, effectivement, j'ai pas mal évolué au sein de l'entreprise.
Mais est-ce que le fait d'avoir eu cette reconversion avant, d'avoir une toute autre carrière juste avant, ça a changé ta perception du monde du travail? Parce que comme tu le disais, il y avait beaucoup de personnes dans cette rédaction qui étaient qui sortaient d'école de journaliste, donc il y avait une voie pas toute tracée, mais presque en fait, qui avait toujours eu cet objectif en tête, mais toi, tu avais une vie complètement différente avant.
En fait, ça, je crois pas que ça ait changé ma conception du monde du travail, mais ça m'a donné une confiance dans le fait que je pouvais tenter des trucs et que si ça marchait pas, j'aurais les ressources pour rebondir et pour faire autre chose derrière. Donc ça m'a vraiment libéré d'un poids, ce fameux poids que en fait ma pote, je suis même pas sûr qu'elle le sache, elle, qu'elle a été mon déclic, mais... Mais de ça, ouais, ce déclic et tout ce qui a suivi après, et les réussites qui ont suivi, ça m'a vraiment enlevé ce poids de ouais, mais non, mais non, mais ça se tente pas, ça c'est trop risqué, machin, etc.
Tu repenses encore maintenant à tout ça, à cette conversation
Bah, de ouf, bah ouais, mais ouais, j'y repense hyper souvent. Alors après. Je veux pas non plus être, tu vois, je veux pas vendre des contes de fées non plus. C'est un déclic, mais après c'est pas un saut dans le vide. Après il faut quand même bosser ton truc, faut quand même prévoir un petit peu, faut avoir un plan A, un plan B, ou au moins un plan A prime. Mais en tout cas, ouais, ça m'a libéré de ce blocage initial que tu peux avoir quand tu as envie de te lancer dans un nouveau projet. Ouais.
Et donc, tu as eu encore une évolution de carrière, puisqu'après avoir été rédacteur en chef de ce pôle vidéo, tu as décidé de pas tout plaquer, mais de t'en aller pour te lancer sur YouTube. Est-ce que ça a été une sorte d'autre mini déclic, ou comment c'est venu, en fait, cette envie de partir sur YouTube?
Alors, cette envie de partir sur YouTube, c'est je sentais que j'avais clairement envie de faire de continuer à faire de la vidéo. Alors, ça, c'est vraiment un truc qui m'a... Mes 2 ans au pôle vidéo, là, ça m'a... complètement conforté dans le sens de c'est ça mon truc. Il n'y a pas eu vraiment un déclic. Il y a eu cette sensation que je pourrais pas vraiment faire ce que j'ai envie de faire si je restais dans une grosse boîte comme ça, avec des trucs de validation,
oui, tout, des pôles décisionnels, etc. Ouais.
Donc je savais qu'il fallait que je fasse ça dans un truc un peu plus light. Bon, il y avait YouTube là qui pour le coup était bien lancé, donc je me suis dit c'est là qu'il faut le faire. J'avais pas pensé encore une fois à la santé tout de suite. Moi je pensais partir pour faire de l'humour, et puis assez vite je me suis dit y a du monde quand même là, donc il y a déjà du monde sur l'humour. Oui. Moi j'ai quand même mon truc de j'ai la compétence santé. Là pour le coup il y a pas grand monde, et puis ça va concerner tout le monde, donc j'ai commencé à fomenter mon petit plan. Et j'ai eu l'espèce de validation de Cyprien, avec qui j'étais resté pote. Ouais. Je lui ai parlé de mon truc, il m'a dit « mec, mais trop bonne idée, mais vas-y, fonce, moi je t'aide, je te présente des gens chez Webedia, machin, etc. pour voir s'ils peuvent t'aider à monter le truc ». Et j'ai eu la validation aussi d'un gars qui bossait chez YouTube, et qui m'a dit « mec, non seulement c'est une trop bonne idée parce que YouTube a envie d'avoir plus de contenu un peu pédago comme ça. La santé, c'est un secteur où il y a vraiment de la place et qui va intéresser tout le monde. Et accessoirement, économiquement, c'est viable parce que c'est un secteur dans lequel tu sais que tu pourras avoir des OP, machin, etc. Donc tu vas potentiellement pas pouvoir en manger avec ça tout de suite. Mais à terme, il y aura moyen, quoi.
On va parler un petit peu plus tard de ta carrière sur YouTube. Mais avant ça, qu'est-ce que tu répondrais, toi, aux gens qui pensent que changer de métier aussi souvent, être dans des univers assez éloignés, finalement, sauf quotidien puis YouTube, puisque t'étais déjà dans les vidéos. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui trouvent que c'est plutôt une forme d'instabilité ?
Bah, déjà, je leur dirais, tu me parles pas sur ce ton, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, que je sache. Déjà, il faut voir que j'ai quand même fait 10 ans infirmier, 8 ans journaliste. Donc, ce n'est pas comme si je changeais de taf tous les deux mois. Et je leur répondrais que est-ce que ce n'est pas mieux de se réorienter vers un truc qui te motive plutôt que de rester dans un boulot qui ne te plaît plus parce que tu es plus tranquille là et parce que tu es plus... Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de faire bien un truc que tu as envie de faire, même si ça ressemble pas à ce que tu faisais avant, que continuer à faire un truc que tu n'as plus envie de faire et du coup, à terme, mal le faire par flemme, par peur, par... voilà. Donc, je leur répondrai ça. Et puis, ça va bien, deux secondes, là, les jugements. Là.
Je rajoute une question. Est-ce que pour toi, c'est de l'envie ou c'est de l'instinct, tous ces changements ? Parce qu'on a beaucoup parlé d'instinct avec différents invités dans nos podcasts. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'en discuter.
Moi, je dirais que pour moi, c'est d'abord de l'envie, parce que je fonctionne vraiment comme ça. C'est vraiment le premier truc qui vient, c'est de quoi tu as envie, est-ce que tu as envie, machin, etc. Après, l'instinct, il intervient dans un deuxième temps, savoir est-ce que j'y vais ou pas. Si mon instinct me dit « tu peux le faire », et c'est viable, je fonce, mais c'est d'abord de l'envie, ouais. Du désir presque, j'ai envie de dire presque du désir.
Maintenant on va parler un peu plus du côté youtubesque de ta carrière. On n'est pas sans savoir que ton frère Adrien Méniel, il est aussi connu, il est auteur, il est acteur.
Première
Est-ce
nouvelle.
Que tu penses qu'il y a eu une espèce d'émulation fraternelle pour que vous retrouviez à travailler dans le même milieu, ou c'est un petit peu un hasard?
Le hasard existe-t-il, Juliette, déjà ?
Moi, j'y crois.
Bien. Je fous le camp, hop. Ça dégage.
J'ai mouché.
Non, je pense que ça ne peut pas être un hasard. Déjà, comme je te disais tout à l'heure, la vidéo et faire les cons et faire des sketchs et tout, c'est un truc vraiment... Parce qu'avant, le magnétoscope en bandoulière, notre grand-père avait une caméra Super 8 et tout, donc on a vraiment baigné toute notre enfance, notre adolescence et notre vie de jeunes adultes avec la vidéo, etc. Donc on a toujours fait des trucs comme ça. Donc c'est sûrement pas un hasard si on se retrouve à faire ça tous les deux aujourd'hui, alors que lui il était illustrateur au départ et moi infirmier. Et puis on a un peu une histoire commune aussi de ce truc, il en a déjà parlé dans des podcasts concurrents, mais néanmoins amis sans doute. Voilà. Ouais, il a raconté déjà plusieurs fois ce truc de... il sentait bien qu'il avait envie de faire ça, mais un, il n'imaginait pas forcément que ça pouvait être un métier, et deux, il ne se sentait pas forcément légitime ni capable de le faire. Donc on a un peu cette histoire commune, plus ce que je te disais avant, à savoir le goût pour la vidéo et les sketchs, etc. Donc c'est sûrement pas un hasard qu'on se retrouve tous les deux là-dedans. Il m'a devancé, hein, même si c'est mon jeune frère, il a commencé avant moi. Et pour répondre à ta question peut-être suivante, non, ça ne m'a pas du tout aidé. En tout cas, concrètement et pratiquement, il ne m'a pas...
Y a-t-il du piston contre les fermes?
Il ne m'a pas pistonné.
Pas du tout la question suivante.
En plus.
J'anticipe sur des trucs qui n'existent pas.
Oui. Donc tu parlais du fait que tu as discuté avec Cyprien de cette envie de lier ta première carrière à ta carrière sur YouTube,
ouais.
Donc de lier le médical, le soin à YouTube. Mais comment ça t'est venu cette idée en fait? C'était juste parce qu'il y avait trop de monde sur l'humour et tu t'es dit, tu t'as chopé ailleurs ou tu avais encore une fois cette envie de partager, d'être plus pédagogue?
En fait, il y a un peu je me suis dit que c'était bouché sur l'humour et que est-ce que j'avais vraiment
très
un truc
stratège.
À...
Hein c'est un stratège, Julien.
Est-ce que j'avais, surtout est-ce que j'avais un truc à apporter à ce truc-là? Et puis, très concrètement, Y a deux trucs qui m'ont donné l'idée, c'est les nuits originales.
Mmh. Thomas Hercouet, qu'on
Thomas Hercouet, bonjour Toto, bonjour Hercouet. J'avais fait des segments où je parlais de, alors c'était essentiellement de prout et de caca, mais c'était axé santé, voilà, un petit peu à la manière de ce que je fais, sur ma chaîne. Et puis j'avais fait ça une fois aussi dans une vidéo sur le site d'information gratuit pour lequel je travaillais. Je m'étais rendu compte que, un, ça plaisait aux gens, et que, deux, moi, j'étais à l'aise avec ça. Et trois, je rajoute un trois, alors que j'avais déjà dit « et », comme si j'allais m'arrêter là. Et que trois, je pouvais faire des trucs marrants en parlant de santé. Et du coup, je me suis dit « y a ce machin-là, j'ai les connaissances, je suis légitime, ça intéresse les gens, et... » je peux quand même faire des blagues, parce que je me voyais pas faire des trucs super magistraux et en vrai, à l'hôpital, quand je faisais de l'éducation aux patients, j'essayais déjà de rendre ça attractif, pas forcément avec les mêmes blagues que sur YouTube, mais j'essayais déjà de rendre ça attractif. Là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment moyen de faire des blagues et de faire des sketchs. On m'avait dit ouais, fais gaffe, la santé quand même, c'est hyper touchy, tu peux pas trop blaguer avec ça, machin et tout. Et en fait, si tu peux, si tu te moques pas des gens, mais oui. Si tu te moques des maladies...
Il y a plein d'autres formes d'humour que de se moquer des gens, de toute façon.
Voilà. Mais voilà, ça a été ça le truc.
Et t'as envie de faire ça encore longtemps, YouTube ?
Bah, j'en sais rien du tout. Là, pour le moment, j'arrive suffisamment à m'amuser en le faisant, à trouver des trucs nouveaux à faire pour pas que ce soit monotone, ni pour moi, ni pour les gens qui regardent. Ça va. Je ferai clairement pas ça jusqu'à la retraite que j'aurai pas. Merci Macron démission. mais je suis serein sur le fait que le jour où, même avant de plus avoir envie de faire ça, j'aurais sans doute une issue de secours. J'aime beaucoup jouer la comédie. Je le fais trop peu à mon goût, mais ça peut être une voie de reconversion par la suite.
C'est justement ma question suivante. Est-ce que à part l'acting, tu as d'autres envies de reconversion après YouTube ?
Bah là, comme ça, tout de suite, non. Vraiment, ce serait mon dream job d'avenir, ce serait de jouer la comédie. Et en vrai, je pense que c'est un peu une espèce de plan que mon subconscient a établi pour moi depuis le début. Parce que quand j'étais gamin, quand même, être comédien, c'était vraiment un truc qui me branchait. Autant youtubeur, ça n'existait pas. Journaliste, j'y avais jamais pensé, etc. Autant être comédien, c'était vraiment un boulot qui m'attirait de ouf. Et c'est pas impossible que petit à petit, tu vois, il m'amène vers ça gentiment, mon subconscient. Là pour l'instant mon dream job du futur ce serait ça, et sinon il y aurait des possibilités, tu vois, bosser dans la prod, bosser dans un network, enfin donner des cours ou des trucs comme ça, ou retourner bosser à l'hosto. Non,
ça fait beaucoup de choses différentes.
Non, mais il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir.
Surtout avec la carrière que tu as maintenant, tu peux offrir beaucoup de choses aux autres.
Oh, bah écoute, c'est sympa, j'aime bien ça.
Et j'ai une dernière question. Yes. Avant qu'on te quitte, Julien, même si c'était très intéressant et qu'on aimerait continuer à parler avec toi pendant des heures.
Toute la nuit.
Si la personne que tu étais avant ce déclic te voyait maintenant, qu'est-ce qu'elle en penserait de ce que tu es devenu, des tournants que tu as pris ?
Eh ben écoute, franchement, alors elle en serait comme trois ronds de flanc, parce que j'avais déjà ronds de flanc. Non, je pense que oui, je vais pas parler de moi à la troisième personne, parce que finalement cette personne c'est moi. Mm-hmm. Je pense que je serais super surpris du chemin que ça a pris. Je serais sûrement fier, parce que je Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on est fier de soi quand on a réussi un truc qu'on avait envie de réussir.
On prône tout ça dans le déclic. On veut arrêter. On en a parlé plusieurs fois avec différents invités, mais faut pas non plus être un but soi-même, mais il faut savoir dire quand on est bon dans quelque chose.
Faut être conscient de sa valeur et de ses réussites en toute humilité, parce qu'on peut être fier et humble à la fois.
Exactement.
Donc je pense que je serais fier de moi, je serais fier d'avoir essayé déjà. Donc merci Isabelle pour le déclic.
C'est pour toi Isa.
Isa, c'est pour toi. Je serais fier d'avoir essayé, je serais fier d'avoir réussi et de jamais avoir lâché jusqu'à aujourd'hui.
Super. Eh ben, Julien, je te remercie beaucoup.
Mais c'est moi.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Julien.
Salut.
Merci d'avoir écouté le déclic de Julien Méniel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.